Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alléluia. Amen. Maintenant, prends ta parole. Ouvre-la dans Hébreux 11. Hébreux 11. Que tout le monde prenne sa Bible. Dans Hébreux 11. Alléluia. Nous allons lire le verset 17 à 20. Si tu es là, dis Amen.
Amen.
Alléluia. Hébreux 11. Verset 17 à 20. Je vais lire. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Ça, c'est Louis II. J'irai dans le fond. Louis II révisé, je vais reprendre la lecture. Hébreux 11, verset 17 à 20. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ta parole soit bénie. Bénis cette parole de ta glorieuse puissance. Merci de préparer les cœurs à la recevoir, afin que ta gloire soit vue et que ton nom soit exalté et que les ténèbres et leur puissance soient en déroute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu contrôles toutes choses et tu donnes toutes choses par ta parole puissante. Elle est puissante. Elle est puissante, ta parole. Elle accomplit dans nos cœurs des merveilles. Elle nous donne d'avoir accès à des promesses. Cette parole puissante, que ton nom soit béni. Je dépends de ton autorité et de ton onction pour l'enseigner ce matin et la prêcher avec vie. Afin que tout cœur soit tourné vers Dieu et que ce qui est à Dieu lui soit remis, c'est-à-dire nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Que chacun dise Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Le thème de mon message ce matin est « Établis ton propre verdict. » Établis ton propre verdict. Que toi-même, tu établisses ton propre verdict. Vous savez, il nous arrive de traverser certaines situations extrêmement difficiles. Et face à ces défis de la vie, Nous avons tendance à accuser le diable, à rejeter la responsabilité sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos amis, souvent même sur nos parents ou même nos défunts parents. Et quand ce ne sont pas nos parents, ce sont les démons. Ou même alors, si ce ne sont pas les démons, c'est notre pasteur, c'est notre église, c'est notre dénomination qui est responsable des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez, je sais que l'adversité est présente. En fait, un enfant de Dieu normal ne peut pas vivre sans avoir connu l'adversité. L'adversité fait partie de notre lot. Ça fait partie des choses auxquelles nous devons être confrontés. D'abord, quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, je te crée à mon image et à ma ressemblance afin que tu domines. Le mot domine, là, exprime ou révèle l'existence d'une adversité, d'une opposition. Il peut arriver à certaines personnes d'aller jusqu'à maudire le jour où ils sont nés. Je maudis le jour où je suis né. Et même régner la famille à laquelle ils appartiennent, puis encore la nation qui les a vus naître, où Dieu les a suscités. Certains vont jusqu'à dénoncer même leur couleur, leurs origines. Parce qu'ils attachent à ces facteurs le mal ou les malheurs dans lesquels ils se trouvent entre griffes. Vous voyez, nous sommes une génération. Ou alors nous vivons dans une génération, et c'est mieux ainsi, de personnes qui ont la démangeaison d'entendre certaines choses. Face à l'adversité, on veut juste entendre le pasteur dire, hey, « Eh, demain tu seras béni, tu seras élevé, Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner une femme, tu auras un travail, tu seras multimilliardaire. » Et tout le monde crie « Amen, Amen, Amen !» On veut entendre ces choses. C'est ce qu'on veut entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui ont des ministères de satisfaction de la foule réussissent justement à avoir l'eau de personnes qu'ils drainent tout autour d'eux. Mais ces personnes sont là en train de courir elles-mêmes vers leur propre déception. Pourquoi? Parce que ces ministères sont bâtis sur la séduction et non sur la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, on aura autour de nous beaucoup de faux prophètes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus qu'il est avec Jésus. Je vous dis la vérité. En fait, par le fruit du ministère, nous saurons quelle est la personne qui appartient à qui. J'ai même entendu dire récemment qu'il y a maintenant une nouvelle vogue de personnes qui, n'est-ce pas, mettent un staff quelque part et puis on te prend des renseignements, des gens dans le parking pour relever le numéro de ta voiture, et puis on vient filer à l'orateur rapidement, et donc tout ce qui a été pris en cure d'âme, tout ce qui a été pris comme numéro de voiture, vous dites, bon, il y a quelqu'un ici, ton numéro de voiture, c'est temps, voici ce que Dieu va faire. Vous savez, le spectaculaire n'est pas la chose qui devrait nous attirer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu ne se limite pas à ces marches spectaculaires-là. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on t'a donné le nom de ton père et de ton aïeul qu'effectivement ce qu'on te dit qui va se faire, va se faire. En fait, Dieu n'a pas besoin de te rappeler le nom de ton grand-père pour te bénir. Parce que la bénédiction que Dieu t'apporte n'est pas rattachée à ton grand-père, mais il est rattaché à Abraham, mais pas à ton grand-père. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a pas besoin de te rappeler la couleur de ton slip, comme on m'a dit récemment à Yam Soukro. Eh, oui, une fois dans cette salle, ton slip est comme ça, voilà ce que Dieu veut faire. Dieu n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais nous sommes une génération de personnes qui aimons entendre ces choses. On dit Dieu est puissant, Dieu est ici. Mais le problème, c'est qu'en fin d'année, nous devons avoir la capacité de tirer un bilan des choses qui nous ont été annoncées. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est manifesté? Si effectivement la puissance de Dieu s'est limitée à te faire tomber par terre, ce qui est fantastique, on assiste ici à des gens qui tombent par terre. Alors, écoute-moi bien, si ça s'est limité à ça, on aurait une génération de personnes extraordinairement bénies par Dieu. Mais dommage, certaines personnes sont confrontées à cette puissance, tombent, mais au lieu de s'élever, ils se rabaissent, comme si le fait de tomber était un signe de malédiction. Ils tombent et puis tout tombe, les affaires tombent, le mariage tombe, les finances tombent. Mais quand Dieu te fait tomber, c'est pour relever toute chose. Et nous refusons de faire face à ces vérités. Et c'est pour ça que vous allez observer que généralement, dans les programmes qu'on organise, interdominationnel, puisque je travaille dans le corps de Christ, il y a des gens qui ont le ministère de se retrouver par terre à tous les programmes. Leur ministère s'est tombé. Comme si, parce qu'on a été par terre, alors Dieu nous a visités. Et je vous dis la vérité. Et vous le savez. Vous voyez, une telle attitude nous conduit tout droit à la déception. On se déçoit soi-même. Numéro 2, à l'amertume, parce que après être tombé, on n'a rien vu, on est déçu, on devient amer. Après l'amertume, il y a la frustration. On est frustré. On est découragé. Et c'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui disent, oh, ça fait longtemps que je vais à l'église, je suis découragé, je suis frustré. Parce qu'ils ont bâti leur vie, n'est-ce pas, spirituelle sur des choses de surface, mais pas des choses intérieures. Vous savez, quand vous voulez acheter un véhicule, faites attention à l'apparence extérieure. Parce que le véhicule, c'est pas sa coque. Le véhicule, c'est le moteur. Même s'il paraît bon, il peut te lâcher en plein VGE parce que le moteur n'a pas été consistant à l'intérieur. Donc, les choses intérieures, souvent, ont plus de valeur que les choses apparentes. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous devons faire un effort d'aller au-delà des choses apparentes. Vous voyez, je vois des gens découragés, des gens frustrés, des gens qui sont abattus, qui viennent à l'église, qui traînent des pattes. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le même Dieu qu'on adore? Est-ce que c'est vraiment le même Dieu? Est-ce que c'est le Dieu que je connais? Est-ce que c'est le Dieu de mes pères? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que certaines personnes prétendent adorer? Je réponds en disant non. Ça n'est certainement pas le même Dieu. Suivez-moi bien. Vous voyez, mais au-delà de tout cela, il existe quand même des personnes sincères, c'est-à-dire qui sont sincères dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur manière de faire, sincères avec Dieu. Ils aiment vraiment le Seigneur, ils aiment Dieu. Ok, mais ces personnes sincères qui ont un appel de Dieu, qui causent avec Dieu, qui ont reçu des promesses de Dieu, se trouvent quand même aussi, ces personnes-là, confrontées à certains défis. Vous avez le fait que certaines promesses tardent à s'accomplir. Dieu t'a fait une promesse, ça tarde. Vous savez, quand la promesse tarde, il y a des raisons de s'impatienter parce qu'elle tarde. Mais je vais vous dire une chose qui est vraie. Le Dieu qui nous fait la promesse n'est jamais limité par le temps. Parce que le Dieu qui nous fait la promesse n'est pas temporel mais éternel. Et quand il fait la promesse, il le fait de l'éternité pour l'amener dans le temps. Et non dans le temps vers l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Il fait la promesse dans l'éternité pour amener dans le temps. Il ne fait pas la promesse dans le temps pour transporter cela dans l'éternité. Non, mais de l'éternité vers le temps. Hein? Et souvent, parce que Satan, on a comme l'impression que non, Dieu contrôle la situation. Dieu est au contrôle. J'ai dit, il est au contrôle. Est-ce que tu me comprends? Et je vais même plus loin. Non, simplement, il est au contrôle de la situation, mais il contrôle tous les aspects de la situation. C'est pour ça qu'il va dire que même les cheveux de ta tête sont comptés. Et aucun d'eux ne tombe sans sa propre permission. C'est-à-dire que même quand le peigne fait sauter un de tes cheveux, c'est la permission de Dieu. Il compte et il sait qu'il y a un qui a sauté, il a le devoir de remplacer. Souvent nous pensons que c'est quand les choses sont si grandes que Dieu contrôle tout, même les petites choses nous concernant. Et souvent nous faisons face à des oppositions. L'opposition peut être la situation dans laquelle tu te trouves. Vous savez, Dieu t'a fait une promesse, mais là où tu habites, ce n'est pas un palace. Tu n'es pas venu ici en prenant peut-être même un taxi compteur, peut-être tu as trotté avant d'arriver. Tu ne vis pas, les circonstances dans lesquelles tu vis peuvent être des adversaires à la parole que tu as entendue. Parce qu'il y a une réalité qui t'environne. Et il faut reconnaître que la réalité est contraire à la vérité que la parole de Dieu t'annonce. Le reconnaître, c'est l'humilité. C'est vrai. Autour de moi, je ne vois pas les choses telles que la Bible dit. Mais il ne faut pas se limiter autour de toi. Parce que le monde ne se limite pas autour de toi. Le monde ne ressemble pas simplement au quartier où tu habites. Et les gens que tu as connus ne sont pas tous ceux qui existent. Et c'est pour ça, vous voyez, quand une femme a été déçue par un homme, elle a tendance à dire les hommes sont mauvais. C'est l'homme qui t'a déçu qui est mauvais, ne dis pas tous les hommes. Parce qu'une autre femme est en train de dire mon mari est bon. Est-ce que vous me comprenez? Ou alors elle dit non, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Non, c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience avec une femme que tu vas dire toutes les femmes sont mauvaises. Et vous voyez, les gens qui sont continuellement en train de dire il y a du mauvais en face, généralement, c'est en eux-mêmes que se trouve le mauvais. Un jour, les enfants voulaient blaguer avec leur père. Et ils ont pris du fromage pendant qu'il dormait, ils ont mis au-dessus de son nez. Un fromage de très mauvaise odeur. Et quand le père s'est levé dans la chambre, il a commencé à dire la chambre sent. Et il disait, mais qu'est-ce qu'il y a ça? Partout il arrivait, il dit ça sent. Mais en fait, ni la chambre, ni le salon, ni sa voiture, ni son bureau ne sentaient. C'est le dessus de son nez qui avait une odeur. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, c'est juste un problème que nous devons ajuster nous-mêmes, qui pourrit notre vie partout où on arrive. Ok? Donc, et nous devons faire attention. L'opposition, nous pouvons faire face aux oppositions des hommes. Parce que les hommes s'opposeront aussi à nous. C'est pas mauvais qu'ils s'opposent, parce que certains d'entre nous sont manipulés par la puissance ennemie. Donc, on peut faire face à l'opposition des hommes. C'est normal, ça peut arriver. L'opposition des hommes. Et ensuite, vous voyez, il y a aussi des défis auxquels notre propre Dieu nous confronte. Parce que souvent, certaines choses arrivent parce que Dieu lui-même a mis en face de nous des défis. Ce ne sont pas des hommes. Ce n'est pas un homme qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Donc, il y a des situations qui arrivent parce que Dieu lui-même a voulu qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul a prié pour que ses chats lui soient ôtés. Et Dieu lui a dit, sa grâce, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Donc, il y a des défis auxquels Dieu nous confronte lui-même. Mais vous savez, ces défis, ces oppositions ne viennent pas dans le but de nous détruire, mais au contraire, de forger entre dans nous le véritable homme que Dieu veut voir. Faire de nous le véritable soldat de Christ. Faire grandir notre foi et nous donner d'aller à la conquête véritable des promesses que Dieu a pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, n'ayons pas peur des défis. Tout à l'heure, pendant qu'on chantait, j'étais transporté. On adorait le Seigneur. Je me rappelais des moments d'extrême adversité. Il peut arriver des moments où tu te demandes bien si ton Dieu vit, s'il existe. Je vous dis la vérité. Si tu n'as jamais vécu ça, tu vas le vivre. Parce que chacun d'entre nous, nous devons passer par là. Si tu as dit lundi, c'est achevé, c'est parce qu'il y a eu la nuit et le jour. L'adversité. C'est normal. Mais suivez-moi bien, nous ne devons pas nous arrêter à ces choses. La Bible nous parle d'Abraham, notre père par la foi, qui a été éprouvé par Dieu. La Bible dit, Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu. Et Dieu a demandé à Abraham en sacrifice son fils Isaac. Maintenant, je voudrais que vous compreniez exactement ceci. Numéro 1, suivez-moi bien, concernant la vie d'Abraham. Vous voyez, Dieu a parlé à Abraham quand Abraham avait 75 ans. Genèse 12, verset 1. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va-t'en dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Dieu parle à Abraham. Quand Abraham a quel âge? 75 ans. Quitte ton pays. Et vous voyez, de 1 an à 75 ans, Dieu n'a pas visité Abraham. Abraham était descendant de Terach, qui était adorateur d'idoles. 1 an à 75 ans, Abraham ne connaissait pas Dieu. C'est extraordinaire, c'est ce que Dieu fait. Abraham n'est pas né dans une famille qui adorait le Seigneur. À 75 ans,
pendant que lui-même pouvait établir le verdict définitif de sa vie en disant, ma vie tient à sa fin, Dieu parle à Abraham pour dire, quitte ton pays. Vous savez, à 75 ans, on n'a pas la même vigueur d'un enfant de 25 ans. À 75 ans, même marcher est un problème. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays. Abraham pouvait dire, mais cherche un jeune. J'ai 75 ans. Comment est-ce qu'à cet âge, à l'âge de la stabilité, où je pense véritablement maintenant à laisser le relais à d'autres personnes, tu me dis quitte ton pays. À 75 ans. Et je vois certaines personnes qui n'ont même pas encore 50 ans et qui ont traversé des problèmes et ils commencent à dire non, ma vie était ceci. Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. J'ai dit, il n'a pas encore commencé. J'ai dit, Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Il n'a pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé son histoire avec toi. Et donc, Abraham quitte son pays à 75 ans. Il s'en va. Mais tu vois bien, Abraham attend 11 ans sans avoir eu d'enfant. Il a d'abord attendu 10 ans. Il n'a pas eu d'enfant. Et là, sa femme lui a dit, écoute-moi bien, Dieu t'a parlé, c'est vrai. Mais écoute, regarde moi-même. Là, je n'ai plus mes règles. Je suis monoposé. Disqualifié pour la promesse. Ça ne peut plus venir de moi, Abraham. Donc Dieu lui-même savait qu'il ne tenait pas compte de moi. Moi, il t'a parlé à toi, mais je ne suis pas inclus. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que sa femme voulait dire. Que, en tout cas, n'aie pas peur. Prends carrément ma servante. Parce que si Dieu t'a dit, tu auras un enfant, et tu viens me dire ça, moi, je n'ai plus mes règles, comment est-ce que tu attends que moi je puisse avoir un enfant avec toi? N'est-ce pas une autre façon pour moi de me dire, comme tu n'as pas pu me donner un enfant, laisse-moi aller avec une autre fille, prends-moi ma servante. Est-ce que vous me comprenez? Abraham s'en va vers sa servante. Et là, il réussit à avoir un enfant avec sa servante qu'on appelle Ismaël 11 ans plus tard. Est-ce qu'Abraham n'a pas été patient? 1 an, 11 ans. Donc à 86 ans, Abraham a un enfant qu'on appelle Ismaël. Et donc, après, vous comprenez que Dieu vient voir Abraham. Après que Abraham ait eu, n'est-ce pas, Ismaël, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ah, ça c'est fort, hein. Marche devant ma face, comme quoi reste sur la parole que je t'ai donnée. Marche devant ma face, pas dans mon dos, mais devant ma face et sois intègre. Marche devant moi, devant ma face. Marche là devant moi, Abraham, et sois intègre. Donc, Dieu dit à Abraham, l'acte que tu as posé n'est pas un acte intègre. Tu allais vers ta servante n'est pas intègre. Tu n'avais pas besoin de m'aider pour accomplir ce à quoi je t'appelais. Et vous savez, chaque fois que vous posez l'acte dans l'attente de la promesse, et vous le faites par vous-même, Dieu dit, ok, on va recommencer l'épreuve. On va repartir. En quelque sorte, les 11 ans d'attente, vous risquez de les annuler pour recommencer à zéro. Est-ce que vous me comprenez? Les 11 ans d'attente, vous recommencez à zéro. Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez vous rendre compte qu'après les 86 ans d'Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham va recevoir la visite des 3 anges quand il est âgé de 99 ans. 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, Dieu visite Abraham. Mais Dieu n'avait pas parlé à Abraham, oui. Il avait parlé à Abraham. Et à l'âge de 100 ans, Abraham donne naissance à l'enfant qu'on appelle Isaac. Abraham, âgé de 100 ans, dans une génération sans Viagra. Pas d'opération chirurgicale. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait pas encore de ces stimulants capables de donner à l'homme une certaine vigueur. Abraham réussit à avoir un enfant appelé Isaac, 25 ans plus tard, avec sa femme Sarah. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, c'est cet enfant-là, celui qu'Abraham a attendu pendant 25 ans. Dieu lui dit, maintenant, Abraham, ton histoire avec moi commence. J'ai mis Abraham à l'épreuve en ces mots, dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Dieu demande Isaac en sacrifice. Après 25 ans d'attente, il dit, donne-moi ce fils. Après 25 ans d'attente. Et vous allez vous rendre compte de ceci. Quand vous lisez la Bible. Dans Genèse 13, verset, je crois, 5. Et dans Genèse 15, verset 5 à 6. Dieu a fait la promesse à la postérité d'Abraham. Il a fait la promesse à la postérité, c'est-à-dire à la descendance d'Abraham. Mais Dieu n'a jamais fait la promesse aux postérités, mais à la postérité. Ce n'était pas aux postérités, mais à la postérité. Parce qu'en Dieu, il n'allait jamais exister deux postérités, mais une seule. Donc, si Ismaël était là, et Isaac était là, une des deux postérités devait être disqualifiée. Dieu a choisi Isaac comme la postérité de la promesse. Celui par qui les descendants d'Abraham devraient exister sur la terre. La postérité et non les postérités. Est-ce que ça devient clair pour chacun d'entre nous? Vous voyez, Dieu a annoncé à Abraham qu'Ismaël n'était pas celui que lui, il s'était choisi. La preuve, il dit à Abraham, quand il parle, donne-moi ton fils, ton unique. Comme pour dire, à mes yeux, je n'ai jamais compté Ismaël comme faisant partie de ta descendance, de ta lignée. C'est certes ton enfant, mais c'est pas le mien. Est-ce que vous me comprenez? C'est ton enfant, mais ce n'est pas le mien. Quand je parle tenant compte de ce que moi et toi, nous avons eu ensemble dans notre relation. Pas les choses que tu allais fabriquer toi-même pour présenter devant moi. Mais, lors de la veillée, je vais vous montrer pourquoi est-ce que, malgré ce que Dieu a fait, quand Agar a été chassée de la maison et qu'elle est partie avec l'enfant, elle a mis l'enfant quand l'outre, l'eau est finie, elle est allée pleurer à distance. Dieu n'a même pas, quand il a visité Agar, il a dit à Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Alors que c'était Agar qui pleurait. C'est l'enfant, il dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Donc, c'est ce fils qui a demandé à Isaac en sacrifice. Et vous voyez qu'il a demandé à Abraham en sacrifice. Alors, Dieu a éprouvé Abraham. Vous voyez, le fils Isaac représente pour Abraham 25 années d'attente. 25 ans d'attente. C'est pas un an, 25. Et ensuite, Isaac représente pour Abraham celui à qui Dieu a dit, c'est ta descendance là qui portera ton nom sur la terre. Imaginez donc l'amour qu'Abraham pouvait avoir pour cet enfant. Plus grave, encore Abraham, on peut dire ça va, il avait déjà eu un enfant avant. Mais imaginez l'amour de Sarah pour Isaac. Imaginez l'amour de Sarah pour Isaac. Arrivé au moment où elle-même n'espérait plus jamais que Dieu soit capable de le faire. Et c'est cet enfant que Dieu demande à Abraham à l'épreuve. Et vous voyez, c'est d'Abraham Isaac que devait venir la descendance. C'est d'Isaac que devait naître Jésus. C'est d'Isaac que David devait descendre. C'est lui qui avait reçu la promesse de Dieu. Et Dieu demande Isaac en sacrifice. Maintenant, vous et moi, nous avons lu la Bible. Et nous pensons que c'était facile. Je veux qu'on fasse un voyage dans le temps. Je vais vous montrer ça contextuellement. Aujourd'hui, si Dieu te demande, donne 100 000, donne 1 million, donne 2 millions, donne 3 millions à Dieu, une maison, tu le fais. Pourquoi tu le fais? Parce que tu as eu des gens à côté de toi qui l'ont fait et qui ont été bénis. Donc, tu le fais avec le témoignage de ce que tu as déjà vu Dieu bénir ceux qui ont fait. Mais au temps d'Abraham, Abraham n'a aucun témoignage de la fidélité de Dieu à l'égard des semeurs. Jamais. La première personne qui a fait une grande offrande, qui s'appelle Abel, est mort. Tué d'avoir donné à Dieu. Donc si Abraham doit prendre un exemple, il se réfère à Abel, mais Abel était mort. Il n'y a rien pour encourager Abraham. Est-ce que vous me comprenez? La deuxième personne intègre qu'Abraham pouvait citer s'appelle Noé. Noé, intègre, a vécu dans le déluge. Il était obligé de ramasser les cadavres et de pouvoir les enterrer dans des endroits parce qu'il a fait et Dieu a détruit sa génération. Donc il n'y a pas de témoignage réel de ce que Dieu est toujours en train d'agir de façon spectaculaire à l'égard de ceux qui sont intègres. Bien qu'il ait été préservé, lui et sa famille, mais tout le monde autour de lui a été détruit. Ce n'est pas facile à vivre. Si aujourd'hui on vous dit, on vous donne tout l'argent de la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a plus d'Ivoiriens autour, il n'y a plus ce que c'est, il n'y a plus les magasins, les supermarchés, les boutiques, il n'y a plus les salons de coiffure, mais vous êtes riches. Vous pensez que vous allez jouir de cet argent comme vous jouissez quand le monde est là? Je vous pose une question. Vous allez jouir de la même manière? Et même d'ailleurs, s'il n'y a pas commerce, s'il n'y a pas trafic, est-ce que tu auras l'amour de l'argent que tu as aujourd'hui? Vous savez, c'est ça le vrai problème. L'argent ne te produira pas l'effet que tu as s'il n'y a pas la capacité de l'utiliser. C'est parce qu'il y a échange que l'argent a une valeur. S'il n'y a pas d'échange, l'argent n'a pas de valeur. Et tout ce qui est resté entre les mains de Noé n'était pas des choses échangeables. Il est resté un spécimen de chaque espèce d'animaux. Ça veut dire que même manger était un problème pour Noé. Parce que tout avait été détruit. Tout Noé n'a pas. Noé a dû être patient. Sélectionner ses repas. Heureusement que dans l'arche, la poule avait déjà donné des mi-bas. Et quand tout était sec, le lapin avait déjà été déjà plusieurs fois multiplié. Comme il est très rapide. Donc Noé avait un certain type de repas qu'il pouvait manger, mais pas tout. Parce que s'il mangeait une espèce qui n'était pas multipliée, l'espèce disparaissait. Donc c'était pas facile pour Noé. Abraham n'avait pas d'exemple. Mais la Bible dit, suivez-moi, et c'est là où je commence mon message, suivez-moi très bien, la Bible dit que Abraham, quand Dieu lui a parlé, il pensait que Dieu est puissant. Ah ça j'aime ça. Il pensait que Dieu est puissant. C'est-à-dire quoi? Abraham n'a pas seulement agi. Avant d'agir, Abraham a pensé. Il a pensé, il a médité avant de poser l'acte. Beaucoup de personnes posent des actes, mais ne méditent pas sur l'action qu'ils posent. Et je vais maintenant vous montrer quelque chose, suivez-moi bien. Vous savez, en fait, même quand vous posez l'acte, Dieu va vous bénir au niveau de la pensée que vous avez relâché en posant votre acte. Abraham a pensé, prenant Isaac, que Dieu est puissant et qu'il est même capable de ressusciter les morts. Dans sa pensée, il a donné à Dieu l'opportunité de la résurrection. Alors qu'il n'avait jamais entendu parler de résurrection. La résurrection n'existait même pas dans le dictionnaire. Mais il a créé dans sa pensée le mot résurrection pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je sais que si Dieu a attendu 25 ans, si Dieu a donné à Sarah mon opposé d'avoir un enfant, mais ça veut dire que ce Dieu est puissant. C'est comme ça qu'il a pensé, non, il est fort. Parce que, attends, ben, on a attendu longtemps. Et moi-même, Abraham, j'ai senti la vigueur que Dieu m'a redonnée, comme si j'avais 25 ans. Alors, ce Dieu est certainement puissant. Il est puissant. Mais Dieu me demande mon fils. Il m'a dit d'apporter un sacrifice. Mais alors que Dieu m'a dit que de ce fils me sera donné une postérité. Mais alors, est-ce que Dieu m'a menti? Mais pourquoi est-ce que Dieu peut me demander un fils? Alors qu'à ce fils, il a dit, c'est lui-là qui va faire que tes descendants portent ton nom. Mais il me l'a dit de le tuer. Mais Seigneur, s'il meurt, comment est-ce que la parole que Dieu m'a donnée s'accomplira? Alors il reste là, il dit non. Si Dieu me dit de le tuer, oh non, Dieu est tellement extraordinaire qu'il veut me surprendre quelque part. Je vais obéir. Je suis certain que dès qu'il va mourir, quelque part, peut-être quand je rentrerai à la maison, je trouverai mon fils vivant à la maison parce que Dieu veut m'impressionner encore avec sa puissance. Mais vous voyez, il a pensé. À quoi tu penses? Quelles sont les pensées qui gouvernent ton être? À quoi tu penses? Vous savez, la pensée est importante. À quoi tu penses? Quand tu penses à Dieu, tu penses à Dieu, tu le vois comme qui? Comme quel Dieu? Quelles sont les pensées qui habitent ton être à l'égard de Dieu? Dieu est qui? Écoutez-moi bien, c'est une déception pour toi si tu crois que le Dieu est simplement celui que tu dois venir adorer à l'église. Il faut penser grand à l'égard de ton Créateur. Quelles sont les pensées que tu as à l'égard de Dieu? Abraham a pensé, et laissez-moi vous dire ceci, vos pensées vont établir sur votre destinée le verdict qui vous concerne. Vos pensées vont établir sur votre destinée le verdict qui vous concerne. À quoi tu penses? Il y a des gens qui pensent que non, vous savez, Dieu, il est celui qui, que vous voyez, Dieu nous punit avec la maladie, Dieu est celui qui nous frappe, Dieu n'aime pas qu'on soit riche, Dieu veut qu'on soit pauvre, Dieu veut qu'on soit si. La pensée que tu as pour Dieu va conditionner Dieu dans l'action à ton égard. En fait, Dieu va se révéler à toi au niveau de ta pensée. Quelle est ta pensée? À quoi tu penses au sujet de Dieu? Oh, j'ai la foi. Je crois que Dieu est puissant, je crois. Mais qu'est-ce qui habite ta pensée quand personne n'est là? À quoi tu penses? Si tu pensais que Dieu est puissant, comme je lis dans les journaux, est-ce que vous allez être à l'église et puis aller chercher des fétiches quelque part ou demander à un féticheur de vous aider à résoudre un problème? Si tu penses que Dieu est puissant, pourquoi est-ce que tu tremblerais devant les circonstances? Si tu penses que Dieu est puissant, pourquoi tu t'inquiéterais? En fait, l'inquiétude naît du fait que dans nos pensées, nous avons limité l'action de Dieu. Oh, je m'inquiète. Mais Dieu est puissant. À quoi tu penses quand tu parles de Dieu? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? J'ai dit ceci. Écoutez-moi bien. Abraham a pensé avant d'agir. Il a établi le verdict sur sa destinée, en disant simplement ceci: je crois que Dieu est puissant, même jusqu'à ressusciter les morts. Je le pense. Est-ce que vous me comprenez? Mais à quoi tu penses? Vous savez, faites attention. Il ne faut pas permettre aux circonstances autour de toi de conditionner ta pensée. Abraham n'avait pas un exemple de résurrection. Il n'y avait pas autour de lui quelqu'un qui était ressuscité avant. Mais il a poussé sa pensée au-delà des informations naturelles. C'est pour ça que quand on me dit, voilà, tel est pasteur, ça ne va pas chez lui, il y a des problèmes, c'est difficile, il ne s'en sort pas, les pasteurs sont maudits, les pasteurs sont si. Ma pensée surpasse ce que les gens disent. Et ma pensée va au-delà de ce que les gens ont vu. Et je dis aux gens, si vous n'avez jamais vu ça, vous le verrez avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? À cause de ta pensée. Il faut permettre à ta pensée d'aller au-delà de ta circonstance naturelle. Au-delà. Entièrement. Permets à ta pensée d'aller au-delà des circonstances naturelles. Il faut que ta pensée aille au-delà des circonstances naturelles. Ta pensée surpasse les réalités naturelles. Que ta pensée aille dans les profondeurs de Dieu. Que ta pensée aille rencontrer Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Voilà un homme qu'on appelle Abraham. Dieu, dès le fondement du monde, avait immolé Jésus comme sacrifice. Et Dieu avait promis la résurrection de Jésus-Christ. Mais Dieu ne l'avait révélé à personne. Abraham, dans sa méditation vis-à-vis de Dieu, est allé entrer dans les secrets de Dieu. Et il a trouvé la résurrection en Dieu. Pas dans un dictionnaire, pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il a rencontré Dieu dans le profond de lui-même. Et il a sorti cette pensée à l'intérieur du cœur de Dieu. Et il s'est dit à lui-même, Dieu est puissant, capable même de ressusciter les morts. Et il a établi un jugement sur la circonstance qu'il traversait. Et il a dit, mon fils ne mourra pas. Même s'il meurt, Dieu le ressuscitera. Et c'est à cause de cette parole que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Et vous voyez, Isaac était mort aux yeux d'Abraham. Mais il a continué à vivre. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Quel est donc le verdict que tu établis sur ton futur mariage? N'accepte pas les paroles de tous les jours. On dit non, quand tu te maries, les deux premières années, trois premières années, c'est la difficulté. La Bible ne l'a jamais dit. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous vous mariez, les moments vont venir où ta femme n'aura pas à manger, et puis ce sera la guerre à la maison. N'acceptez pas. La Bible ne l'a jamais dit. Il faut pousser ta pensée au-delà de ce que les gens autour de toi vivent. Et laisse-moi te dire que si tu es né, c'est parce qu'il était nécessaire et utile que Dieu fasse quelque chose par toi que personne d'autre ne pouvait faire. Tu n'es pas venu sur la terre ressembler aux autres. Tu n'es pas venu sur la terre vivre comme les autres. Tu n'es pas venu sur la terre établir ton verdict comme ceux des autres. Dieu a quelque chose de particulier qu'il fera avec toi. Et permets donc à ta foi, par ta pensée, d'entrer dans le miracle de Dieu. Alléluia. 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 Il faut déclarer un verdict. Il faut déclarer un verdict. Et laisse-moi te dire que souvent, quand tu déclares le verdict, les gens qui sont autour de toi ne vont pas toujours s'allier à ton verdict. Je vais vous dire la vérité. Même le propre Isaac a demandé à son père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Et Dieu a dit à Isaac, l'Éternel pourvoira lui-même à l'agneau du sacrifice. Pourquoi? Dans sa pensée, il savait que Dieu est fidèle. Et il est allé à la montagne de son sacrifice. Le diagnostic des hommes n'est pas celui de Dieu. Le médecin a peut-être établi, tu as le VIH, tu as la tuberculose, tu as ci, tu as ça, tu as le cancer. Mais où va ta pensée? Sur le verdict du médecin, qui n'est qu'un homme, ou vers le verdict de Dieu? Où est-ce que tu amènes ta pensée? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas jusqu'à, comme Abraham, pour dire, même si mon corps est dédié à la mort, même si la ruine a frappé mon être, je crois que Dieu est capable de me donner une seconde vie sur terre, de purifier mon corps, de guérir mon être, de changer celui que je suis et accomplir par ma vie le miracle de sa puissance. Béni sois-tu pour l'opportunité que Dieu te donne de voir sa gloire, de voir sa gloire. Cette situation que tu traverses n'est pas là pour te faire périr, parce que tu as une alliance avec Dieu. La situation n'est pas là pour te détruire. Elle est là parce que Dieu veut te montrer son visage. Il veut te montrer sa face. Marche devant sa face, sois intègre, et tu verras sa gloire. Il le fera pour toi. J'ai dit, il le fera. Vous savez, même si les gens autour de vous ont commencé à dire des choses néfastes, ne tenez pas compte de ce langage. Gardez la pensée ferme, enracinée en l'Éternel, et vous verrez sa puissance. Je parle d'un Dieu que je connais. Je parle d'un Dieu avec lequel j'ai une histoire. J'ai vu Dieu faire, et je m'attends à ce qu'il fasse. Il est si grand que quand je prends mes décisions, je ne me réfère pas à mon petit compte bancaire pour décider. Je vais au-delà, je vais en Dieu pour puiser ma décision. Il faut méditer. Il faut garder la parole. Il faut réfléchir au sujet de Dieu. Vous savez, il faut magnifier le Seigneur. Magnifier le Seigneur avec ses pensées et son être. Et vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Vous savez, quand vous avez une pensée, n'est plus à l'égard de Dieu. La Bible dit tout ce qui est glorieux, pas digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Quand vos pensées sont saines, elles sont positives, elles dégagent un rayonnement, elles attirent la faveur au-dessus de vous, elles génèrent l'espérance, elles déclenchent la foi, elles font bouger le ciel. Parce que je vais vous dire quelque chose, un homme qui pense parle à Dieu par son esprit. Et celui qui parle par sa bouche, il parle par le corps. Mais la pensée est la voix de notre esprit. Notre esprit en nous parle à Dieu, même en pensée. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Ça veut dire que Dieu va même dans tes pensées pour puiser l'adoration que tu lui apportes et la confiance que tu lui fais. Où sont tes pensées 24 heures sur 24? À quoi tu penses? Au mal que tu feras à ton prochain? À quoi tu penses? À l'argent que tu vas voler quelque part? À quoi tu penses? Qu'à quoi tu penses? À ce que les gens ont dit sur toi, ou alors au mal physique que tu traverses, ou à ton compte bancaire qui est vide. Il ne faut jamais mettre tes pensées sur les circonstances apparentes, parce qu'elles sont passagères. Il faut mettre ta pensée en l'Éternel. Ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement de ce rêve. Ce qu'il a dit de toi s'accomplira certainement. Et vous savez, frères, sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Je suis bien placé pour vous dire que quand Dieu a quelque chose de grand pour vous, le diable a quelque chose de grand pour vous. Et le diable va utiliser les gens qui sont tout autour de vous pour vous décourager, pour vous avilir, vous amener à croire que vous n'avez pas de valeur. Refusez ces pensées et restez en Dieu, parce que c'est Dieu qui compte et non les hommes. Il faut rester dans la pensée de Dieu. Restez dans la pensée de Dieu. Mais on n'a jamais vu ça. Est-ce que Dieu, mais c'est pas possible. Comment c'est, mais c'est l'orgueil. Comment tu peux penser à des choses pareilles? Abraham n'avait jamais vu quelqu'un que Dieu avait ressuscité. Mais il a pensé à la résurrection. Faut pas vous limiter aux histoires des autres. Il faut que Dieu t'utilise à une dimension plus grande que ce que tes yeux ont déjà vu. C'est la raison pour laquelle tu es venu. Établis le propre verdict sur ta destinée. Et vous savez, David a dit, même quand ça allait mal, et que tout le monde disait que c'est un roi dans la déchéance, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Il établissait sur sa destinée le fait du final. Je ne mourrai pas, je vivrai. La femme qui avait la perte de sang a établi son verdict. Elle a dit en elle-même, par ses propres pensées, si je puis simplement toucher le vêtement du Seigneur, je serai guéri. Elle s'est dit en elle-même. Et elle a été guérie. Pourquoi? Elle a établi son verdict. La femme distinguée qui a perdu son enfant mort a établi son verdict et le moyen de l'accomplissement du miracle. Quand elle est allée à la rencontre du prophète et qu'il a envoyé son serviteur, elle a dit à son serviteur, tout va bien, mais moi je vais rencontrer le maître. Et même quand le mari a demandé comment va l'enfant, elle a dit, tout va bien. Pourquoi? Elle avait établi son propre verdict. Et vous savez, quand votre verdict a été établi, il n'y a rien qui puisse empêcher la manifestation du miracle. Si tu tiens ferme dans ton verdict. Et moi j'ai dit, même dans ma galère, même dans les moments les plus difficiles, j'aimerai Dieu de tout mon cœur. Je servirai Dieu dans l'intégrité. Et je verrai sa gloire. Je me suis dit, je verrai sa gloire. Je me suis dit à moi-même, même si tous les hommes de Dieu n'ont pas vu la gloire, moi je la verrai. Même si les gens sont devenus orgueilleux à cause de la richesse, je resterai humble. Écoutez-moi bien, votre verdict va influencer votre destinée. Quel est le ton verdict? Va influencer ta destinée. Quel est le verdict que tu fais de toi-même? Et vous savez, quand tu as établi ce verdict, aie le courage de le confesser, de le dire aux autres, de le proclamer, de l'annoncer. Et tu deviens comme un homme qui est dingue, qui est fou, mais continue de parler. Et je vais te dire que Dieu ne décevra pas le verdict intérieur. Il va tester ce verdict, mais il ne le décevra pas. Ce n'est pas le jour où Abraham a pensé que Dieu va ressusciter Isaac, que Isaac a été ressuscité. Il a laissé Abraham marcher 3 jours. En fait, il donnait à Abraham l'opportunité, soit de douter, soit d'enraciner son verdict et de le sceller. 3 se tient pour la perfection. Abraham a été véritablement éprouvé. Et c'est le 3e jour sur la montagne de Morija, quand il a levé la main, à la 90e minute. Alléluia. À la 90e minute. Au moment où personne ne s'imaginait encore, même lui-même, il a levé la main, il a dit bon, j'y vais. Et il entend, ne touche pas cet enfant. Ne lui fais aucun mal. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Abraham a vu le jour du Seigneur, et il s'en est réjoui. Vous savez, quand Dieu lui a dit ne touche pas l'enfant, Dieu dit regarde à Golgotha. J'ai cherché un homme sur la terre qui pouvait me donner la possibilité d'amener mon fils à la résurrection. Je voulais mesurer, n'est-ce pas, l'homme de la mesure avec laquelle il s'est servi. Et moi, je voulais ressusciter Jésus depuis le fondement du monde. Je n'ai pas trouvé un homme, mais en toi, tu m'as donné la capacité d'envoyer cet homme. Regarde la mort de Jésus sur la croix. Et je vais te dire, à cause de ta confiance, Jésus viendra comme descendant d'Isaac. Il viendra comme descendant de Jacob. Il viendra par le ventre de Marie. Et ce sera Dieu parmi nous, qu'on appellera Emmanuel. Il vivra parmi les hommes. Il sera crucifié à la croix. Mais à cause de ta pensée, à cause de ton verdict, le 3e jour, exactement comme Isaac sur la montagne, Jésus ressuscitera d'entre les morts et la gloire de Dieu se fera visible. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, il n'y a pas que la mort, mais il y a aussi la résurrection. Il n'y a pas que la mort, mais il y a aussi la résurrection. Et je vais te dire, garde ce verdict en toi. Même si c'est difficile, persévère. Car la parole que Dieu t'a donnée, il ne t'a pas menti. Ça viendra certainement. Même si tout autour de toi ne semble pas accomplir la parole qui t'a été donnée, garde et persévère. Ce rêve est certain. Son temps est marqué. Il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Et toi-même, tu diras de l'Éternel, waouh, mon Dieu, tu m'as surpris. Tu verras sa grandeur. Et quand tu verras l'image de tes pensées marcher au-devant de toi, tu lèveras les mains vers le trône de Dieu pour dire, Dieu est vivant, Dieu est glorieux. Tu béniras l'Éternel pour sa grandeur et sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je termine en vous posant une question. Quelle est la force de l'adoration si au fond de vous, vous n'avez pas d'attente et de témoignage? Quelle est la force? Quand tu lèves tes mains vers le trône de Dieu et que tu dis, Dieu, tu es vrai, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et au-delà de ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu attends? C'est ton espérance qui touche ton cœur et te transporte dans la réelle adoration. Si tu n'attends rien, pourquoi tu adores? Ah oui, tu adores parce qu'il est vivant, parce que tu es en allié, parce qu'au-delà de la circonstance, tu sais que Dieu est vivant et qu'il va intervenir à ton égard. C'est ça la force, c'est ça la raison. C'est exactement pour ça que nous devons adorer le Seigneur. Alors, même si ton rêve tarde à s'accomplir, je voudrais te dire, persévère, persévère. Alléluia. Merci Seigneur. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui puisse te venir en aide, même si tes diplômes ne t'ont pas qualifié pour avoir un emploi digne dans notre société, même si ton background ne te donne aucune assurance d'un avenir meilleur, garde la parole que Dieu t'a donnée dans son cœur. Garde-le dans ton cœur. Même si tout autour de toi, personne n'a réussi, même si tu habites une zone où tout le monde vit et croupit sous la misère, même si les gens qui vont à l'église autour de toi n'ont pas vu la gloire de Dieu, je voudrais te dire ce matin, garde ton rêve, garde-le en toi. La parole que tu as entendue, elle est certaine. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Que tes pensées reviennent en Dieu et que tu puisses véritablement persévérer.
Encore une
merci
fois,
Seigneur. Persévère. Tu es dans cette assemblée et tu as vraiment été touché par ce message et tu veux donner ton cœur à Dieu. Même si tu m'écoutes maintenant là, chez toi, à ta maison, tu veux donner ton cœur au Seigneur, avance ici, avance simplement, je vais prier pour toi. Tu veux naître de nouveau, viens, je veux prier pour toi, je vais prier pour toi. Alléluia, alléluia. Avance, n'aie pas honte, n'aie pas peur, viens. Dieu t'a touché, visité ce matin. Et tu te dis, je veux vraiment me donner à lui. Je veux me donner à l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour les cœurs qu'il touche, pour les vies qu'il change. Dieu le fera. Oh, merci au Seigneur. Merci pour mon frère. Merci Seigneur pour ma soeur. Ah, c'est un jour extraordinaire. Un jour de joie et de réjouissance devant le trône de Dieu. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, merci, ta présence est ici. Tu as accompli des choses grandes et puissantes, éternelles au milieu de l'assemblée. Merci Seigneur, oui. C'est le jour où tu rencontres Dieu, où tu veux naître de nouveau. Le jour où tu veux vraiment qu'il descende et habite en toi. Le jour où tu fais de lui ton maître. Et c'est ce jour, c'est définitif. Ton nom est arraché des feux, des registres de l'enfer. Et il est écrit dans les registres de la vie. Si tu es là, avance. Si tu m'écoutes maintenant, je vais te demander là où tu es, de lever tes mains dans la présence de Dieu. Lève vos mains dans la présence du Seigneur maintenant. Merci Seigneur.
Répète après moi ces paroles de tout ton cœur. Seigneur Jésus, ici devant, répondez avec enthousiasme. Seigneur Jésus, du fond de mon cœur, j'ai entendu ta parole. Elle a touché mon être. Seigneur, mon cœur est à toi. Je cède ma vie sur l'autel du sacrifice et de la consécration. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie et que ta justice s'établisse dans ma vie au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu es puissant, capable de changer ma vie, de me donner une vie nouvelle, de me restaurer, de me bénir, de me combler, de me protéger. Seigneur, je crois au fond de moi que ta parole est vraie et je persévérerai dans les voies de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Je remets ton enfant entre ta main. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre toutes les forces des ténèbres, toute la puissance de Satan qui agit contre ta vie et ta destinée. Je lis ces forces que te propulsent dans les abîmes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Et j'établis dans ta vie par la foi le miracle de la nouvelle naissance. Et que ton cœur soit changé de l'intérieur. Et que la gloire de Dieu se déverse en toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Le Seigneur t'a visité, ta vie a changé. La gloire de Dieu a commencé, une saison nouvelle s'est levée, ton heure a sonné, la manifestation de ses promesses sont réelles et tu feras ça.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.